Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission préférée le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Si vous voulez réécouter cette émission en podcast, les deux premières heures sont déjà disponibles. On a évoqué ce choc entre Marseille et Lyon en Ligue 1, qui a le plus à perdre. On a parlé évidemment du carton rouge de Romain Ntamack et de cette possibilité, Mathieu Jalibert, pour le remplacer. On a parlé de cette troisième place pour le Hand. Bref, beaucoup de sujets déjà abordés avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkov, Fred Weiss et Philippe Saint-André. Dans quelques instants, on va évoquer Victor Wembanyama, qui a été sélectionné cette semaine pour le All-Star Game de la NBA. Une véritable consécration et un petit peu de jalousie désormais à son encontre. On en parle donc dans quelques instants. 11h30, les GG remontent le temps, semaine de crunch. Vous le savez, à venir, l'occasion pour Christophe Cessieux de revenir sur un France-Angleterre mémorable, mythique, 1977. N'entrez pas, c'est une véritable boucherie. Vous allez voir, ça a bien changé le crunch, et j'imagine que Philippe Saint-André va être tout émoustillé d'entendre ce sang et ces larmes qui coulaient à flot en 1977.
Je me souviens de ce match, moi. J'avais que 10 ans, mais
c'était beau.
Bah surtout, les Français font le grand chelem avec les 15 mêmes joueurs. Donc à l'époque, il n'y avait même pas de coaching.
Et les enfants avaient le droit de regarder ce match?
Ah non.
C'était pas interdit au moins de 18 ans?
Là, c'était boucherie, charcuterie.
Ok. Christophe va vous raconter cette histoire à 11h30. Et puis 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, ils vont devoir débattre. D'après vous, quel est le débat caché du jour? Votre sensation, Christophe?
Tu, comme t'as zappé le monoxyde de carbone interdit tout à l'heure, alors que tu l'avais prévu dans un premier temps dans le zapping, je me dis que tu l'as peut-être décalé en sujet caché.
Monoxyde de carbone interdit, ouais, par l'UCI cette semaine. On en a longuement parlé dans cette émission. Je crois même qu'on est la première émission à en avoir autant parlé avec Marc Madiot et Jérôme Pinault. Et puis de petit à petit, l'idée a fait son chemin et l'UCI l'a déclaré. C'est à partir du 10 février, hein, je crois, qu'il a interdit pour exactement tout le peloton. C'est ta proposition de débat caché. Fred Weiss.
Écoute, un grand homme a dit aujourd'hui que le vrai événement du jour, c'est les championnats du monde de cyclocross. Mmh. Et donc, comme j'écoute beaucoup cet homme, je voulais me poser la question, est-il nécessaire de se salir pour faire du sport?
Ok, ça c'est une bonne proposition, une belle pique, ou en tout cas une belle trouvaille pour Christophe Cessieux. Sarah Pitkowski.
On n'a pas parlé du PSG aujourd'hui quand même. Dembélé qui fait encore un triplé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, voilà, autour du PSG, Dembélé, peut-être d'une sortie de Luis Enrique, parce que là maintenant forcément, il est beaucoup plus volubile en conférence de presse, donc il y a peut-être quelque chose que tu nous réserves.
5-2, la victoire, ouais, hier face à Brest, très bonne proposition également. Pour toi, mon cher Philippe.
Bah, Sarah a fini quatrième, alors pourquoi pas on va de parler de peinture?
Peintureau, est-ce qu'il, peut revenir au plus haut niveau? Est-ce qu'il doit arrêter sa carrière? Bravo. Les mamours, les papouilles, arrêtez, parce que là, on va reprendre les débats. C'est sympa. Dans cette séquence, le débat caché, c'est évidemment 11h45. N'hésitez pas à me faire vos propositions via le Direct Studio. Je ne l'ai pas encore écrit, donc ça tombera. Si, si, évidemment, tout est préparé dans cette émission. On va débuter cette nouvelle heure avec un proverbe polonais qui dit, très important, hein, l'amour sans jalousie, c'est comme un polonais sans moustache.
La une des grandes gueules du sport.
Mais quand est-ce qu'il va arrêter? Il est plus capable de mettre deux pieds devant l'autre.
On va parler de la jalousie de coupe. Je vais vous donner la méthode la plus rapide et la plus efficace pour vaincre cette jalousie.
Vraiment, c'est des joueurs que je déteste en principe.
La jalousie peut arriver à plein de niveaux différents. There's the double-double for Wemby. 12
points, 10 rebounds in the first half. En France, on a plein d'exemples de joueurs et de joueuses qui sont arrivés à maturité tardive. T'as toujours ceux qui brûlent les étapes. Wemby just caught it in mid-air, facing the opposite direction. Jean de La Fontaine, vous connaissez le lièvre et la tortue.
Bien sûr.
Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Gets it again.
Ça peut être aussi de la jalousie qui va mener à une rupture amoureuse. Il y en a tellement qu'au bout d'un moment, l'autre en a juste marre. Il en peut plus.
C'est brique après brique qu'on construit une maison.
Je suis jalouse à en faire trembler les gens.
Eh oui, c'est brique après brique qu'on construit une maison. Bravo. C'est une véritable consécration à 21 ans et pour sa deuxième saison seulement NBA, Victor Wembanyama a été sélectionné pour disputer le All-Star Game, le match des étoiles aux États-Unis. Ce match qui aura lieu mi-février. C'est seulement le quatrième joueur français de l'histoire à recevoir un tel honneur, le plus jeune évidemment. Alors cette sélection confirme un peu plus la nouvelle dimension prise par Wemby cette année. Et pour la première fois de sa carrière, cette semaine, une ancienne légende a contesté son leadership. Il ne peut pas être le visage de la NBA. La musique qui fout les jetons est cette question. Est-ce que la folie Wemby, à un moment donné, va laisser la place à la jalousie? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Bah oui, oui, il n'est pas américain, alors évidemment, les Américains sont jaloux.
Évidemment, Fred voilà. Mays.
Non.
Non.
Bien sûr que non.
Christophe Cessieux.
Je pense qu'il peut y avoir un peu de jalousie.
Un peu de jalousie. Philippe Saint-André.
Oui, bien sûr.
Oui aussi pour la jalousie. Parfait. Pour la première fois de cette émission. Ah non, ça arrive tout le temps, me dit-on. Fred Weiss est tout seul. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste basket Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut Sarah, messieurs.
Salut.
Je le disais, salut. C'est la première fois cette semaine que Victor Wembanyama est un peu contesté.
Oui, et d'ailleurs Sarah l'a un petit peu dit, il en faut généralement peu pour que les Américains ne respectent pas un Européen en NBA ou même dans le sport. Anthony Davis, on en a parlé il y a quelques minutes, un des meilleurs pivots de la Ligue, estime que le climat est trop pro-Wemby et qu'il est plus mis en avant que lui.
Je sens que le récit mis en place est là pour mettre en avant Wemby, non? Il est à 4 contres par match ou un truc dingue dans ce style, mais est-ce qu'on parle juste des contres? Je ne sais plus comment ça fonctionne.
Davis jaloux que Victor Wembanyama finisse meilleur défenseur de l'année en fin de saison. Le meilleur ami de Fred Weiss, il vous dira pourquoi Kevin Garnett, ancien grand joueur de NBA, trouve lui que Wemby n'est pas assez dur.
Je sais que la Ligue ne veut pas que ce soit eux le visage. Je pense qu'ils veulent que Wemby soit la figure de proue, c'est évident. Mais le poster qu'il a pris sur la tête par Ja Morant, ça doit compter. Je me fous de savoir s'il y a eu un coup de sifflet. Tu t'es fait attraper, ça compte, c'est sur ta tête. Mais si tu vas dans les quartiers populaires, ouais, les gamins veulent être comme Ja ou Anthony Edwards.
Un critère de respectabilité pour les stars, c'est les coups de sifflet. Lui, Wemby, pense qu'il n'est pas assez protégé par les arbitres, comme les grandes stars qui ont des traitements de faveur. L'intéressé pense qu'il n'obtient pas toutes les fautes qu'il provoque.
C'est de la frustration. C'est dur de se battre contre ça, parce que ça semble parfois injuste. Bien sûr, on en parle avec le staff. Il y a des choses que je dois faire pour m'aider. Être plus costaud, d'abord, mais aussi parler aux arbitres, m'expliquer avec eux. Mais je suis un basketteur. Je suis là pour jouer. C'est pour ça que c'est frustrant. Ce n'est pas à moi de faire de la politique.
Et Wemby a aussi ajouté vendredi qu'il se fichait des récompenses individuelles, sous-entendu, seuls les trophées collectifs lui importent.
Merci beaucoup Arnaud Valadon. Tu restes avec nous pour ce débat très intéressant, parce que c'est la première fois, on en dit beaucoup de bien dans cette émission de Victor Wembanyama. Est-ce déjà une légende? Est-ce qu'il est déjà le meilleur basketteur français de l'histoire? Et puis là, pour la première fois, un peu égratigné aux États-Unis. Est-ce qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie rapidement à l'encontre de Victor Wembanyama? Venez répondre à cette question, le 32-16 de hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un nom, je vais commencer avec toi Fred, pourquoi?
Oui,
non,
dans l'absolu. Alors oui, il y aura toujours des mecs qui vont sortir du lot et qui vont être jaloux, parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours des mecs qui sont un peu moins intelligents que les autres et qui comprennent moins les choses que les autres. Hein, Anthony Davis, c'est quelqu'un qui se bat pour être meilleur défenseur depuis des années, qui considère que c'est le meilleur joueur du monde, même s'il est blessé tout le temps, et qui considère que défensivement, c'est lui qui fait le plus gros taf. Alors concrètement, c'est un excellent défenseur, mais c'est vrai que quand on a un Wemby, on peut pas comparer. Donc c'est... Comment dirais-je? C'est assez logique finalement qu'ils soient jaloux, parce que ils se battent pour le même trophée. Donc quelque part, c'est un peu cette communication qui veut lui permettre d'être lui meilleur défenseur, ce qui ne fonctionnera pas, mais ça tente. Et ensuite, il y a le cas de Kevin Garnett, qui est un idiot fini, contre qui j'ai joué, et quand Arnaud dit que c'est mon meilleur ami, parce que je connais le type de joueur qui est très dur dans ses propos, mais dès qu'il est en face de toi ou dès qu'il joue contre toi, il est beaucoup moins dur. Et c'est ces anciens là qui se rêvent avec une Amérique où l'Amérique est toujours la meilleure nation du monde avec les meilleurs joueurs du monde. Il faut se rappeler qu'en Amérique maintenant, il y a un Luka Doncic, il y a un Jokic, il y a un Giannis Antetokounmpo qui sont les meilleurs joueurs du monde. Ils sont plus américains. Donc j'ai du mal à croire qu'on soit jaloux parce qu'il y a déjà un précédent avec des joueurs qui sont meilleurs actuellement que Wemby.
Mais il dit quelque chose d'intéressant, Kevin Garnett, même si c'est un idiot fini, comme tu l'appelles peut-être, mais il dit quelque chose d'intéressant. Peut-être que pour les Américains, Wemby ne peut pas être l'image de l'NBA.
Mais qu'est-ce que tu préfères dans,
Ma
question est simple. Un Ja Morant qui sort des flingues et qui est un très mauvais exemple pour tout le monde, à un moment, la NBA, c'est une entreprise et ils vont choisir le mec le plus intelligent, celui qui joue le mieux au basket et qui représente le mieux la NBA en étant le plus propre possible.
Et donc, le plus bon
gable. Et en plus beau, c'est ce qui ne gâche rien. Mais à un moment, ils sont pas idiots. Et il faut aussi se rendre compte que les vrais superstars de la NBA, LeBron, Giannis, Jokic, Adoub.
Donc ça veut dire que Wemby. Avec Wemby, on est peut-être en train de gentrifier cette NBA, gommer tous les côtés un peu négatifs qu'elle avait, c'est-à-dire les bad boys, sortis des ghettos.
C'est pas Wemby.
Des mecs qui sont sortis, qui
arrivaient
au sommet et qui étaient considérés un peu comme des exemples de la réussite américaine. Justement, ils étaient partis de tout en bas pour arriver tout en haut. Là, on leur offre un champion français
qui joue aux échecs.
Issu des classes moyennes, qui joue aux échecs, qui est issu de la banlieue parisienne, ils ont même pas une idée
clairement du pain béni. Ça fait longtemps que ce virage a été amorcé.
Mais ce que dit Garnett, c'est que dans les jeunes Américains qui sont fans de NBA et notamment ceux qui habitent dans les banlieues un peu dures, ne se retrouvent pas du tout en Wembanyama.
Oui, alors pourquoi celui qui a un des maillots les plus vendus du marché. À un moment, il faut quand même. Je veux bien qu'on dise des choses. On peut. Et encore une fois, en tant qu'ancien joueur, c'est mon job aussi parfois. Et je dis beaucoup de conneries. Ça m'arrive évidemment. En tant qu'ancien joueur, on peut se tromper. Mais à un moment, les chiffres parlent pour lui. À un moment, les chiffres montrent que le maillot de Wemby est plus vendu que les autres.
Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir que Victor Wembanyama, qui est, j'aime pas cette expression parce qu'on la lance à tort et à travers, mais le gendre idéal et qui pourrait être le gendre idéal de la NBA, bah forcément, ça peut faire parler et peut-être que tous les Américains vont pas être d'accord avec ça, Sarah.
Je sais pas si tous les Américains vont pas être d'accord, mais on l'a vu avec cette rencontre la semaine dernière. La NBA est, comme tu le dis, Fred, c'est une entreprise avant tout. Et elle veut conquérir, elle a plus besoin de conquérir les États-Unis, la NBA. Elle doit conquérir le reste du monde et l'Europe. Et d'avoir un Wemby comme porte-drapeau qui peut plaire autant aux Américains et peut-être aller gagner des parts de marché en Europe, bah c'est normal qu'ils le mettent en avant. Et ça se justifie quand même.
Oui, mais il le prouve sur le terrain aussi. Encore une fois, comme je disais,
c'est pas construit, t'as raison.
Qui joue contre lui,
c'est pas construit toute pièce.
Et ça, c'est important.
Oui, c'est pas construit toute pièce. Alors après, moi, je le trouve plutôt très intelligent, Wemby, quand il répond, en tout cas, de se dire qu'effectivement, lui aussi, il a des choses à améliorer. Il est même très intelligent dans la manière de répondre aux attaques qui peuvent paraître un peu basiques. À 2m24, oui, il a un corps qui est quand même très particulier. Ça doit pas être facile de l'apprivoiser, de s'intégrer aussi vite au jeu de la NBA. Donc, moi, je pense qu'il y a véritablement de la jalousie parce que c'est pas un Américain.
Oui, mais encore une fois, la jalousie va être ponctuelle par certains. Mais concrètement, encore une fois, je te l'ai dit et je te le répète vraiment, et il n'y a pas de mensonge dans ça, les superstars la doublent. C'est-à-dire qu'un Kevin Durant qui critique à peu près tout le monde, quand il joue contre Wemby, il dit que c'est un joueur fantastique. Oui,
donc
et qu'il
en fait, la parole de Kevin Garnett, on s'en contrefiche, en fait.
Mais c'est exactement
on est bien d'accord.
Ce que tu dis, c'est un idiot, c'est un idiot fini.
Ok.
J'ai pas mal de critiques et je vais te donner la main évidemment, mon cher Philippe, mais sur le Direct Studio, c'est assez étonnant. J'ai Walid qui nous dit c'est vrai, les médias sont pro Wemby. Nicolas qui me dit Wemby n'est que le meilleur joueur du monde des médias français, tout comme Mbappé est le meilleur joueur du monde des médias français.
C'est méconnaître le basket de dire ça. Hein.
Ouais, c'est vraiment méconnaître le basket. Et c'est surtout pas vivre aux États-Unis et voir effectivement l'ampleur de son impact.
C'est vraiment considéré comme une méga star. C'est un mec qui est devenu qui est passé largement au-dessus de toutes les stars américaines. Le garçon que toutes les américaines veulent épouser. Il a déjà ses mains
dans Hollywood Boulevard.
Il a des statues à l'entrée des vestiaires.
Tu peux poser plein de questions, mais je vais te répondre à la première. Oui, c'est une superstar. Et je vais te raconter un truc. Je travaille sur.
J'ai l'impression que dans le sport, il n'y a que des superstars.
Non. Je travaille chez le diffuseur officiel de la NBA. Tout le monde le sait. Je ne m'en cache pas.
Beansport.
Qui fait un super taf, une petite promo. Et en fait, on demande Wemby à chaque fois en interview. D'accord ?
Vous.
On demande le média français quand il vient. Quand il vient en France, on le demande à chaque fois parce que on est média français, d'accord? Et on nous explique que non. Maintenant, il fait partie des superstars et que même nous, médias français, on n'a pas la priorité.
Plus de priorité.
On n'a plus la priorité. Alors qu'avant, justement, pour promouvoir ça, pour promouvoir le basket dans les d'autres pays, en France notamment.
Tu as dit que tu faisais partie du journal de Picsou parce que là, tu as peut-être une chance.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as plus cette priorité que tu avais parce que c'était un Français.
Donc, maintenant, c'est bien un produit.
Il est passé dans la casse des superstars américaines. Et pour l'avoir, il faut faire des pieds et des mains, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'avant.
Mais par contre, c'est bien que les Américains soient jaloux d'un Français. Je trouve que c'est super. Ça veut dire, premièrement, qu'il est en train de réussir.
Il a gagné le respect aussi, quelque part.
Il a gagné le respect, qui dérange. Dans un monde maintenant avec les réseaux sociaux, etc., tu ne peux pas faire l'unanimité à 100%. Donc, bien sûr.
C'est pour ça que je dis que ça sera des épiphénomènes, des mecs qui vont sortir, mais ça ne sera pas dans la globalité.
Mais la jalousie fait partie de l'être humain. Et donc, quand quelqu'un réussit et qu'il réussit tout, bien sûr qu'il va avoir des jaloux. Il y a des crétins de partout. Et donc, il est en train vraiment de réussir. Par contre, et ça, je suis d'accord avec Christophe, d'être l'image de la NBA. Ça va énerver quelques joueurs américains et quelques vieilles gloires américaines. Oui, voilà, ça va les emmerder que ça soit un Frenchie qui prenne le leadership, surtout aux États-Unis.
Tu n'as pas le choix. Il n'y a personne d'autre qui l'incarne autant que Wembanyama à l'heure actuelle. Vraiment, c'est obligatoire. C'est pas un choix et c'est pas parce que je suis français que je dis ça. À l'heure actuelle, celui qui incarne le mieux le futur de la NBA. Merci Wembanyama.
Et est-ce que on a vu le geste de Zubac, hein, je crois qu'il se fait d'abord parce qu'il se fait contrer par Wemby, ça a l'air de l'énerver, et derrière il revient en défense. Wemby est au moment d'essayer de taper, enfin de mettre un.
Oui, ça c'est de la frustration. T'es dominé par le mec en face, ça arrive.
Il l'envoie dans les barrières. On a vu d'autres qui essayent maintenant. Le grand jeu, c'est d'essayer de dunker sur la tête de Wemby qui mesure 2m24. Donc ça c'est une preuve de essayer d'enfoncer son adversaire.
Après, c'est toujours arrivé que quand t'as un grand en face, t'as envie de lui dunker dessus. Tout le monde a essayé, évidemment. Mais ceux qui ont réussi, ils l'ont plutôt pas mal. mais pour l'histoire,
mais t'as pas
effectivement.
Peur que ça devienne un peu la chasse au Wemby.
Mais tu penses que quand tu ne peux pas défendre sur quelqu'un, quand il défend sur toi, il te compte, que tu n'arrives pas à scorer, évidemment que t'es frustré. C'est plus de la frustration. De Zubac, qui est plutôt un brave mec, c'est plus de la frustration que de la jalousie. Quand t'arrives pas à passer un mec, c'est un peu chiant.
Non, mais attends, c'est aussi de la politique. Actuellement, c'est mec America, great again, et là, c'est un Français qui est le leader en NBA.
J'avoue que la période avec le nouveau président, c'est pas plus simple.
Non, mais bien sûr.
Je suis d'accord.
Non, mais donc, automatiquement, il y a de la jalousie.
En NBA, c'est Wemby.
Non, c'est pas du tout ce que je te dis. Je te dis que celui qui incarne pour moi le mieux la NBA à l'instant T, d'accord, c'est Wemby. Mais la NBA dans les années à venir. Mais à l'instant T, c'est Steph Curry, c'est Kevin Durant, c'est LeBron James, évidemment, qui sont au-dessus.
Les plus grandes stars restent américaines parce qu'elles représentent aussi le pays. On sait que les Américains sont très attachés, très chauvins, et que leurs stars américaines, qui viennent en plus la plupart de milieu un peu difficile.
Mais les meilleurs joueurs sont pas américains. Par exemple, à l'instant T, Jokic chez Gilgeous Alexander est canadien, Jokic est serbe, Yanis est grec, les trois meilleurs joueurs actuellement en NBA dans le monde.
Curry, c'est le meilleur joueur aux Jeux Olympiques, il nous a fait mal.
En fait, ça veut pas dire que ça soit pas un très bon joueur, mais à l'instant T, et en fait, il y a une échelle des MVP possibles en NBA, et à l'instant T, dans l'échelle,
c'est qui numéro 1 ?
Numéro 1, chez Gilgeous Alexander actuellement, joueur canadien. Le numéro 2, c'est Luka Doncic, joueur serbe. Et numéro 3, c'est Giannis Antetokounmpo, joueur grec.
Et Wemby, il est numéro combien ?
Wemby, là, est sorti de celle-là.
T'as dit Luka Doncic, joueur serbe.
Jokic, c'est Jokic.
Et Wemby, les Américains, en gros.
Si, parce que juste derrière, il y a flopé de joueurs.
Pierre nous appelle au 32-16. Salut Pierre.
Salut la grande gueule du sport.
Tu veux participer à notre débat, on est ravis de t'accueillir ce matin. Vas-y, parle-nous de cette jalousie. Un petit peu de jalousie, il n'y en a pas beaucoup non plus.
Alors déjà, moi je préciserais que je suis un gros gros fan des Lakers. Je me lève la nuit pour regarder les matchs.
Donc, ce matin,
je me suis réveillé avec une satisfaction d'avoir gagné à New York. Et un peu un choc là, un peu dans l'incertitude de ce qui va se passer.
Donc, t'es content ou pas? Parce qu'on en parlait il y a quelques instants de Luka Doncic. T'es content?
À voir. À voir, parce qu'on perd beaucoup en défense et on prend Doncic, je sais pas. J'avoue l'incertitude complète. Parce que moi, j'aurais préféré qu'on prenne un poste 5, par exemple, un bon pivot pour renforcer la défense. Des shooters, on en avait. Des organisateurs de jeu, il y a LeBron qui peut être à la main. Enfin, bref, c'est un autre débat. Sur Wembanyama, moi, ce que je voulais dire, c'est déjà, c'est bon signe qu'il ait des haters. Parce que quand t'as des haters, ça veut dire que tu fais du bon taf et que tu fais parler, tu fais débattre. Et deuxièmement, j'aimerais rappeler à Kevin Garnett qu'il s'est pris des sales dunks aussi sur la tête. Hein. Il s'est fait marcher dessus par Kobe, par LeBron, par Tim Duncan. Je vous invite à juste taper Kevin Garnett dunk sur Kevin Garnett sur Google. Vous trouverez des trucs pas très propres. Donc c'est le but un peu d'un pivot aussi. Hein. Tout le monde veut se faire dunker dessus, veut lui dunker dessus à Wemby comme a dit Fred. Et il est bien passé pour parler. Hein.
Je suis le meilleur à ça.
C'est le meilleur ambassadeur.
Non, mais du coup, voilà, non, c'est très bon signe qu'il ait des haters. Il les a toujours eu. À l'époque, je crois que c'était Shaq qui disait qu'il n'était pas meilleur que Bol Bol. Voilà, c'est les Américains, ils testent un peu. Il va se faire tester sur le terrain. Après, je suis aussi d'accord sur, je ne sais plus quel joueur, je crois. C'est peut-être Kevin Garnett qui a quand même dit ça. Mais Wemby, là, il est conscient qu'il va falloir qu'il se renforce quand même musculairement. Parce qu'effectivement, parfois, au poste bas, dans la raquette, bah, il se fait bouger. Mais ça, il en est conscient, ça va venir avec les années. Mais effectivement, c'est quand même bon signe qu'il fasse parler, que les gars, comme Anthony Davis, soit, je sais pas si c'est de la jalousie, mais commence à parler de lui et commence un petit peu à le détester, parce qu'il prend un peu leur place. C'est bon signe, hein. C'est que des signes encourageants pour sa carrière. Donc, tant mieux pour lui. Il va se renforcer de ça. Si c'est un compétiteur, si c'est un mec qui a un petit peu qu'on a là où il faut, il va s'imprégner de ça comme le faisaient les grands joueurs. Et ça va le renforcer et faire de lui un meilleur joueur, c'est sûr.
Ouais, et on voulait vous proposer ce débat parce que c'était la première fois que ça arrivait là en un an et demi depuis qu'il est en NBA. On parle beaucoup évidemment de Wemby.
Il y a Shaq.
En fait, il expliquait que Bol Bol était Wemby avant Wemby, ce qui est pas complètement faux et pas complètement vrai. En fait, c'est un peu en vrai.
Enfin, Shaq, il a plutôt envie de s'occuper d'un autre Français, Rudy Gobert.
Bah oui, mais il y a une tête de Turc en France, Rudy Gobert.
C'est plutôt sa target. Ok. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir composé le 32-16 et d'avoir été avec nous ce matin. Bon dimanche à toi aussi. 11h27, on se retrouve dans quelques instants pour toute autre chose, une boucherie véritable. 1977, France-Angleterre, le crunch, les GG remontent le temps, c'est raconté par Christophe Cessieu. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec ce matin Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Philippe Saint-André, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous, hein. Dans 10 minutes, c'est le débat caché. Et comme d'habitude, enfin je l'espère, ça va vous plaire. Les GG vont devoir débattre alors qu'elles ne savent rien pour l'instant. Allez, tout de suite, nous allons marquer notre petit temps nostalgie comme tous les dimanches. À 11h30, nous allons remonter le temps. Eh oui, manger du crunch, il y a 48 ans, le crunch était vraiment différent, Christophe.
Oui, ce 19 février 1977, il est un petit peu moins de 15h lorsqu'une véritable bronca se lève des travées de Twickenham. Sifflé, insulté, même crachat. Voici comment l'équipe de France de rugby est accueillie par les supporters anglais. François Sarangali était ce jour-là l'un des centres de l'équipe de France. Alors, je crois qu'on a un petit problème technique. Alors, si l'Angleterre, jusqu'au début des années 70, traite les rugbyens français avec mépris, depuis quelques saisons, les choses ont changé. Les 7 défaites encaissées par le 15 de la Rose en 10 ans ont fait déborder la théière. Il n'est pas question cet après-midi que les Frogs viennent encore battre les fils fiers d'Albion. Depuis une semaine, la presse tabloïde anglaise s'est donc emparée du sujet et à coup de papier incendiaire tente de remonter la foule. L'ancien journaliste de l'équipe, Francis Del Terral, se souvient de cette ambiance.
Via la presse anglaise. Parce que là, les joueurs français ont chargé énormément. Ils ont été agressés verbalement. Dans les écrits de certains journaux, à scandale. Toute presse là s'est emparée de ce match pour dénoncer la violence des avants français, notamment de Cholet, Bastia, Palmy, Ingarno.
Il faut dire que le pack de l'équipe de France fait peur. Hein. Les avants des Bleus, vêtus, sont qualifiés de horde sauvage. Et un quotidien britannique appelle même à descendre Jean-Pierre Bastia, auteur la semaine précédente d'un mauvais geste contre le Pays de Galles. À l'heure du coup d'envoi, Roger Coudert et Pierre Albaladejo, les commentateurs d'Antenne 2, ne sont pas non plus des plus rassurés.
Décidément, on a un petit problème. Ouais,
alors,
avec,
on a un problème
avec son, mais c'est pas grave. Tu peux nous raconter. Voilà.
Donc, en fait, les deux commentateurs sont très inquiets. Pourtant, le 15 de France, mené par un petit caporal nommé Fourou, va s'accrocher. Le Catalan Jean-François Imbernon était ce jour-là au cœur de l'action.
C'est sûr que maintenant, avec la loupe et les nouvelles règles d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait fini à 3 contre 3 devant, mais bon, je sais pas.
Si les marrons et les coups de crampons sont légion, en revanche, les points tardent à venir. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 0-0, et il faut attendre l'heure de jeu pour qu'enfin Sangali inscrive le premier et seul essai de la partie.
Aguirre, Avrous qui surgit, et Sangali, c'est l'essai non transformé, 4-0. Ignel qui avait manqué 5 buts dont 3 faciles, passait celui-ci 4-3, c'était le score final.
Eh bien, on s'en souviendra de ce dernier quart d'heure à Twickenham. On s'en tire, la route du Grand Chelem reste ouverte et après ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois que tout est possible à l'équipe de France.
Et pourquoi pas, je vous sens toujours optimiste, Roger, c'est chouette ça.
Et ils avaient bien raison d'être optimistes, Roger et Bala, car ces petits, hein, c'est comme ça que les appelait Roger Coudert, vont poursuivre leur route vers le succès et offrir à la France le deuxième grand chelem de son histoire. 4 batailles victorieuses que la horde sauvage livra sans encaisser le moindre essai et qu'elle disputa avec les 15 mêmes hommes de la première à la dernière minute de ce tournoi 77.
1977, raconté par Christophe Sessieux. Tu te souviens bien de ce match, mon cher Philippe Saint-André?
Ouais, parce que c'est mon premier vraiment souvenir de l'équipe de France, cette génération. Après, il y avait quand même des beaux joueurs. La troisième ligne, Jean-Pierre Rive, Bastia, Jean-Claude Scrella, c'était assez exceptionnel. La même charnière, Jacques Fauroux, Jean-Pierre Romeu, un ailier très costaud qui s'appelait Jean-Luc Averrous. Mais c'est vraiment pour moi, voilà, je suis tombé amoureux du rugby par cette équipe de France de 77, qui est vrai, était assez violente au niveau du paquet d'avant, parce qu'il y avait quand même des sacrés gaillards.
Est-ce que tu es triste que cette rivalité n'existe plus, ne soit plus aussi forte que celle qui a pu avoir lieu à ton époque ou en 77?
Non, parce que moi, quand j'étais joueur, à un moment donné aussi, c'était très chaud. Hein, les tests entre 88 et 95 étaient compliqués. On se souvient de la Coupe du Monde 91 au Parc des Princes où ça s'était très mal passé. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu notre génération. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette victoire en 95 en Afrique du Sud où on a fini et on a fait une troisième mi-temps avec l'équipe anglaise. Et donc, on a commencé à créer des liens. Et après, on est parti jouer en Angleterre, Philippe Sella, Laurent Cabane, moi. Donc on est une génération où on est parti jouer en Angleterre et donc après ça a complètement changé. Maintenant c'est les Anglais qui viennent jouer en France et donc il n'y a plus, on va dire, l'animosité qu'il pouvait y avoir avant.
Il n'y a plus la détestation, ça veut dire, Christophe, qu'on est un peu pote avec les Anglais aujourd'hui?
Il y a un respect.
Ouh, pote, on va pas aller jusque là. Quand même, mais il y a un certain respect. D'ailleurs, il y a beaucoup de rugbyman anglais qui viennent jouer actuellement dans le championnat de France. D'abord parce qu'il y a plus de sous à se faire en France qu'en Angleterre. Il y a moins cette haine ancestrale qu'il y avait là. On n'a pas pu entendre le témoignage de François Sangali, qui était le centre de l'équipe de France, qui marque l'essai, mais qui dit au moment où on est entré, on s'est fait cracher dessus quand même. Quand tu es dans le couloir, que tu rentres sur la pelouse de Twickenham, quand tu te fais cracher dessus, tu te dis là, les mecs vraiment nous en veulent. Ils nous en veulent pourquoi? Parce que la presse avait été odieuse tout au long de la semaine, avait appelé les foules anglaises finalement à se faire les frogs. Et ça, aujourd'hui, tu as plus ça. Quand ouais, tu rentres à Twickenham, il y a du respect, les hymnes ne sont pas sifflés, tout va bien. Même si évidemment, on se fait ouais, un peu houspiller quand même.
Juste par exemple, Will Carling, on le détestait. C'était le capitaine de l'équipe de France dans les années 90. Il était capitaine aussi quand j'étais capitaine. Là, Là, il m'a envoyé un message pour me demander si j'allais à Twickenham et on va boire un verre ensemble la veille du match. Donc, on peut voir que on a été les pires ennemis.
En 77, c'était impossible.
En 77, je pense dans les 15 qui commençaient, il ne devait pas avoir un Français qui parlait anglais. Il y a aussi ça, l'évolution de la langue, etc., qui a changé énormément. Mais non, en 77, c'était la guerre. On parlait de Jeanne d'Arc, etc., avant un match.
Quand toi tu as entraîné là-bas en Angleterre, tu as été un des pionniers français à réussir là-bas, à t'expatrier là-bas. Quand t'arrives au début, comment ça se passe? Est-ce que t'es vu, t'es regardé du coin de l'œil ou non? T'as vite été adopté?
Au début, oui, ils se demandent. En plus, moi, je signe à Gloucester, donc à Gloucester, c'est près du Pays de Galles, c'est un club qui a un ADN d'avant et tout. Et là, il y avait un Frenchie, un trois quarts qui arrivait. Donc les mecs, ils disaient, est-ce que vous allez nous amener du French flair dans l'équipe, parce qu'ils n'avaient jamais vu un essai des trois quarts pendant 10 ans. Mais après, voilà, j'ai été accepté, parce que ça s'est bien passé.
Tu parlais anglais quand t'es entraîneur
non,
à Gloucester?
Quand je suis arrivé, je ne parlais pas très très bien anglais, et par contre c'est là la beauté. 2 ans et demi après, je gérais le club et j'étais patron du club.
Et moi je me rappelle d'un moment qui a aussi fait pour la réconciliation entre les peuples, c'est cette fameuse demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'All Black qui se déroule à Twickenham en 99, et où les supporters anglais avaient pris fait écho pour l'équipe de France, et ils ont chanté la Marseillaise,
c'est vrai,
en cours de match. Alors ça, si j'avais cru un jour assister à ce genre de choses, c'était dingue.
Mais après, ça va être
qu'on chante God Save the Queen, non, faut mais... pas non plus. Hein.
Mais après, King,
ça va être quand même chaud samedi, hein, parce que là-dessus, ils vont être à Twickenham, ils vont être derrière leur équipe, et le match va être compliqué. Quand même.
Ok, c'est toujours bouillant, mais il y a plus de haine.
Voilà, il y a beaucoup de respect maintenant, et puis surtout avec le rugby professionnel, beaucoup de Français qu'on joue en Angleterre, et maintenant les meilleurs Anglais jouent dans le championnat de France.
Vincent Moscato, il est d'accord avec toi ou il les déteste?
Vincent,
il a de mauvais souvenirs face à
son dernier match en équipe de France, c'est un carton rouge contre les Anglais, et en plus par respect avec les Anglais, il était venu avec un smoking blanc alors que la soirée était en smoking noir, donc et vu qu'il avait pris un carton rouge, il a eu un moment de solitude durant cette soirée.
On l'avait pris pour le serveur, non?
Ouais, et surtout il n'est jamais revenu en équipe de France après ce match-là.
Ouais, bon, en tout cas, pour retrouver Vincent Moscato.
Mais on l'embrasse, Vincent. J'aimerais bien qu'il vienne demain, en smoking blanc demain pour l'émission.
Demain à 15h, de 15h à 18h. En plus, c'est à la télé maintenant également sur RMC Story.
Pourquoi pas
l'idée du smoking blanc? On va glisser ça à Adrien Aigouin et à Pierre Dorian. Il est 11h41. On se retrouve dans quelques instants. Évidemment, ce sera le temps fort de toute la semaine. Et puis samedi prochain, ce match à Twickenham entre l'Angleterre et la France. On n'a pas fini d'en reparler. Et donc, notamment demain dans le Super Moscato Show. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Vous m'avez fait 4 propositions là à 11h. Vous savez quoi?
Il y en a un qui a
0.
Si, il y en a.
Pour une fois, il y en a un qui a trouvé la bonne réponse. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h43, toujours avec Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Philippe Saint-André, Christophe Cessieux. Les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Midi, restez bien avec nous. Déjà une après-midi extraordinaire hein, sur RMC. Il y aura le grand slam de judo. Il y a cette petite finale de hand entre la France et le Portugal. Il y a la Coupe Davis également avec la France qui mène 2-0 face au Brésil. La Ligue 1, bien entendu. Et à 20h45 ce soir, ce match entre Marseille et Lyon. Justement, on en parle dans quelques instants dans les paris RMC. On vous donnera toutes les meilleures cotes. Mais tout de suite, messieurs, dames, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. C'est l'objectif de cette séquence. Vous surprendre avec un sujet inattendu ou pas. Pas forcément inattendu aujourd'hui, mais extrêmement intéressant. Nous n'en avons pas encore parlé dans cette émission. Votre débat caché du jour. C'est ça.
C'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain ici à Brest. 5-2. Le scénario de ce match. Ouverture du score Dembélé, 29e. Dembélé, 57e pour le PSG, 2-1. 62e Dembélé, 3-1. Ramos pour un doublé qui permet donc aux Parisiens de s'imposer. 5-2. Victoire du leader parisien ici à Brest.
C'était hier, après-midi, Paris-Brest, le festin de février, avant la Ligue des Champions dans 10 jours. Bravo Sarah, tu as deviné le débat caché. Les deux équipes se sont retrouvées hier en Ligue 1, je le disais avant. Ces matchs européens, victoire sans appel du Paris Saint-Germain à Brest. 5 buts à 2, nouveau triplé d'Ousmane Dembélé après la rencontre. Éric Roy, le coach de Brest, était fataliste avant le rendez-vous européen entre les deux équipes en 16e de finale.
J'ai un peu du mal, hein, même si j'ai dans l'esprit peut-être, mais après c'est vrai qu'en prendre 5, moi, ça me fait pas trop plaisir, hein. J'étais plutôt un défensif quand j'étais joueur, donc d'en prendre 5, et même quand on est entraîneur, ça fait jamais plaisir, et c'est vrai que si le PSG nous en met 5 au match aller en Champions League, ça va être compliqué le retour. Hein. Il faut essayer de tirer des enseignements, essayer de positiver, et on espère qu'on aura une bonne fée au-dessus de la tête lors de ce prochain match.
Il faut compter sur la bonne fée pour se qualifier. Paris-Brest en Ligue des Champions, est-ce qu'il y a match ? Ou pour vous, il n'y a absolument pas match entre les deux équipes, absolument aucun suspense. Match ou pas match ? Sarah Pitkowski.
Malheureusement, pas match.
Il n'y a pas match. Philippe Saint-André.
Match.
Fred Weiss.
Ou moyennement match.
Moyennement match, ok. Merci Denis Charvet. Christophe Cessieux.
Pas match.
Il n'y a pas match. Qui veut commencer ? Sarah, il n'y a pas match.
Pas match, je suis la première à critiquer effectivement le PSG, Luis Enrique, mais là, force est de constater que en Ligue 1, alors vous allez me dire, c'est pas la Ligue des Champions, mais en Ligue 1, depuis qu'il est sur le banc, c'est 54 victoires pour deux petites défaites pour Luis Enrique. Et je pense que les joueurs commencent à être prêts pour la saison de la Ligue des Champions. Et c'est ce qui fait la différence entre les gros effectifs et les petites équipes. Et on va voir avec Manchester City. C'est-à-dire que là, le fossé va se creuser entre les équipes qui peuvent pas faire tourner et celles qui vont pouvoir faire tourner. Et sincèrement, après la démonstration qu'a fait le PSG hier, je ne les vois pas baisser de régime et certainement pas face à Brest. En Ligue des Champions, j'ai envie de dire, c'est du pain béni pour le PSG qui a eu tellement de mal à se qualifier de jouer Brest en barrage de Ligue des Champions.
Mais justement, c'est pour ça que moi j'hésite. C'est que je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup plus la pression ? Quand tu joues en Ligue 1, finalement, PSG, c'est quoi la pression qu'ils ont ? On sait qu'ils sont plus forts. Les choses se mettent en place, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je suis un peu entre les deux. J'ai tendance à me dire que déjà, rejouer une équipe qu'on a battue aussi facilement, c'est jamais simple, d'un côté. Et en plus, je me dis que c'est oui, mais sur un score fleuve, peu importe au final. Et au contraire, ça, c'est plus une motivation pour Brest que pour Paris, qui va se dire ça va être un match facile, etc.
Tu
vas se mettre la pression énormément parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est une autre compétition, parce qu'ils sont obligés de performer dans ça. Brest, ils ont déjà fait une saison fantastique. Donc, honnêtement,
je pose la question. En fait, ils sont tous stressés pour toi.
Oui, parce que c'est des êtres humains.
J'ai senti tellement les Parisiens stressés. J'ai senti les Parisiens très concentrés. Luis Enrique qui avait aligné quasiment son équipe type, celle qu'il alignera 10 jours plus tard. Et j'ai eu l'impression que le PSG avait envie de marquer les esprits, de fesser les Brestois pour bien leur faire comprendre à 10 jours du match qu'ils n'étaient pas invités à ce niveau de la compétition. Et c'est exactement ce qui s'est passé, même si les Brestois ont résisté. Hein, ils ont quand même marqué 2 buts. À un moment, ils sont revenus à 3-2 et on s'est dit qu'il y avait peut-être une chance. Mais là, les Parisiens ont à nouveau appuyé sur l'accélérateur et il n'y a plus eu personne. Il y a 5 buts marqués comme ça, match aller.
À Brest.
Il y en a un qui aurait dû être annulé.
Ouais, mais il y a
d'ailleurs, c'était un coup de gueule d'Éric Roy qui a dit que le deuxième but parisien était un scandale.
Exactement.
Bon, oui. Toujours, les entraîneurs vont toujours aller sur un but. Il y aurait pu y en avoir.
Oui, parfois ils ont raison.
Oui, bien sûr. Enfin, Il y a une vraie différence. Les Brestois sont magnifiques. Ils ont réalisé des trucs incroyables en Ligue des Champions. Et peut-être que portés par leur public en roue de roue, ils réussiront à se mettre à niveau. Mais je pense que quand tu as perdu aussi souvent face au PSG que le club l'a fait, je crois qu'ils n'ont plus gagné depuis 1980. Face au Paris Saint-Germain.
Tu crois que se transcender à la maison, justement avec le fait que tu t'es fait humilier le dernier match, est-ce que ça ne peut pas rééquilibrer un peu les forces de ce point de vue-là?
Oui, si tu as les forces en présence.
Si tu prends une fessée, t'as pas peur d'en prendre une deuxième, toi?
Ben, moi, c'est le contraire. Moi, je sais que je vais réagir.
Quand ta maman te mettait une fessée, t'allais pas plutôt dans le coin?
Tu sais, avec ma maman, on se tapait pas, c'est elle qui me tapait. Alors que là, je joue contre les autres athlètes. Et justement, plus je suis fessé, plus je suis sûr que le prochain match serait bon.
D'accord. Donc quand tu,
c'est une motivation.
Ta maman te mettait une fessée, t'allais au coin et tu résistais.
Tu sais que Paris, c'est pas la maman de Brest. Hein.
Ouais, mais bon,
ben, c'est, il faut quand même se rendre compte
alors,
de ça.
Moi, j'en connais. Alors. Ça n'a rien à voir, mais j'en connais qui prennent des fessées quand on redemande. Mais je vais pas donner de nom, évidemment, mais j'en connais notamment dans les grandes gueules du sport. Bref, ceci dit, Philippe Saint-André sur cette rencontre. Comment tu motives les joueurs de Brest, toi qui as été entraîneur, sélectionneur, et tu sais que tu pars clairement pas favori. Comment tu fais là dans ces cas-là?
Ben c'est la magie des phases finales, la magie de la Ligue des Champions. Alors oui, ils ont 20% de chance de passer.
Ah quand même.
Oui, mais voilà, sincèrement, si dans le sport c'était que de la science exacte, on s'emmerderait. Et la beauté du sport aussi, c'est que des fois il y a des surprises, des fois il y a des grandes surprises. Et je pense surtout que à domicile, Brest sont capables sur la Ligue des Champions de faire quelque chose. Alors après, oui, il y a un écart incroyable. Où je suis tout à fait d'accord avec Christophe, c'est que ce match pour eux, il était important pour donner un gros mal à la tête aux Brestois, aux coachs, mais aussi aux joueurs. Mais après, la magie de la Champions League, la magie des phases finales, le PSG peut prendre un carton rouge tout de suite. Il y a plein de choses dans le sport que tu ne maîtrises pas, et donc j'espère que Brest va surtout faire deux matchs de grande qualité contre le PSG.
Ok, dans ces cas-là, toi en tant qu'entraîneur, tu fais la méthode Coué, tu leur dis tout peut se passer, tout peut arriver.
Oui, et puis en plus là, ils ont tout à gagner. Alors par contre, il va falloir qu'ils travaillent au niveau de la vidéo, et qu'il va falloir qu'ils travaillent au niveau défensif. Le coach l'a dit, en plus lui c'était quelqu'un qui est un défenseur, de prendre 5 buts quand t'es entraîneur, ça fait mal.
Mais c'est donc un avantage, parce que justement tu peux pas faire pire, tu peux faire de la vidéo, tu peux bien travailler dessus et tu peux arriver à peu près.
Donc,
après,
ils vont essayer de changer de stratégie, mais c'est vrai que le PSG hier, ils ont montré qu'ils étaient supérieurs.
Alors Eric Roy disait d'ailleurs aussi en conférence de presse, nous on joue notre jeu, c'est-à-dire que ok, on pourrait être tous derrière, mais c'est pas Brest, c'est pas nous. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu vois qu'il y a 5-2 au final, s'il y a 5-2 en match aller de Ligue des Champions, il n'y a plus de retour
C'est la beauté, dans 10 jours, est-ce qu'il va s'adapter?
Ouais, mais
est-ce qu'il va changer de stratégie?
À un moment donné, il ne faut pas qu'il se renie. Quoi.
Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il va changer de stratégie?
Est-ce que mourir avec ses idées, quand on fait une si belle saison, est-ce que mourir avec ses idées, c'est pas beau aussi?
Ouais, mais être mort après l'aller, est-ce que ça...
Non, mais c'est une vraie question philosophique qu'il faut se poser. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires avec cette philosophie. Donc tu peux pas renier non plus ton passé. Tu peux pas renier tout ce que t'as fait sous prétexte qu'il y a une équipe qui est très forte
en face de toi. Si tu élimines le PSG en Ligue des Champions, même si t'as rien fait, que t'as défendu deux fois et que tu gagnes avec le penalty...
Là, tu peux danser.
Voilà, tu peux danser. Donc ça va être intéressant au niveau de la stratégie de voir comment Brest va jouer.
Eric Roy sera l'invité de Stephen Brunch, hein, d'ailleurs, à partir de 13h, pour revenir évidemment sur le match d'hier, mais pour envisager la suite. J'avais fait un petit tour de table hier sur ce Brest PSG en Ligue des Champions. Est-ce que ça vous chagrine de voir deux équipes françaises en 16e de finale? Je sais que Christophe était totalement contre cette idée. Fred?
Moi, je suis comme au tennis, c'est-à-dire que ça me chagrine pas tant que je sais qu'il y a une équipe française qui est au tour d'après, en fait. Oui, c'est malheureux, mais au moins je sais qu'il y aura une équipe française qui sera qualifiée.
Okay. C'est vrai qu'on a cette réflexion au tennis. On
le fait souvent
tennis,
comme ça. Donc, voilà.
Donc ça te bat.
Ben alors, ouais, au basket, on aurait cette réflexion aussi, parce que je suis plutôt d'accord avec Sarah. C'est la première fois de la matinée, donc c'est à noter quand même.
Oui,
je suis d'accord avec toi.
Tu as raison,
Sarah.
C'est la première fois de la matinée.
Qui sera qualifié pour affronter
Liverpool
à Roland-Garros, quoi, en gros.
Voilà, oui, mais c'est toujours un tour de plus. C'est toujours un tour de plus.
Quand il y a deux Français qui jouent en fin de première semaine, ils disent, oh, il y aura un Français sur la deuxième semaine.
C'est ça.
Alors que nous, non, moi je pense deux clubs français, oui, c'est bien en demi-finale de la Champions League. Là, c'est
oui,
trop
alors,
tôt.
Alors un Brest-Paris-Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'on soit quand même proche de le voir un jour quand même.
Il faut rêver.
Ah, on serait très heureux.
Je suis pas sûr
que les patrons de la Ligue des Champions soient très heureux de vivre ça.
C'est clair.
Mais nous, ça nous comblerait, évidemment. Oui. Bon, Brest-Paris-Saint-Germain, c'est dans 10 jours pour le match aller. Puis la semaine d'après, il y aura le match retour et savoir qui va rejoindre Lille, autre équipe française qualifiée en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et puis, on n'oublie pas Monaco hein, qui affronte Benfica. Mais on comprend que pour les Brestois, affronter le PSG en Ligue des Champions, bon, c'est l'assurance de certainement pas se qualifier, en plus de pas avoir de magie.
Oui, mais ils auront participé au fait d'avoir un PSG qui sera au tour d'après, tu vois. Tu peux le voir comme ça.
Ok, bah tu vas aller leur dire. Reste à 13h avec les Croix, tu lui diras comme ça. T'es content d'avoir participé, Eric? Bon, il est 11h54, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, Fred, Philippe, Saint-André et Sarah.
Les crêpes sont arrivées apparemment.
Oui, je les vois.
On va voir si Kylian est efficace au niveau des crêpes.
Ah, il est en train de les préparer, là, vous inquiétez pas, vous allez avoir de très belles crêpes. Tu apprends à quoi, toi?
Crêpes sucre avec un peu de citron. Et un peu de Nutella.
Ah oui, c'est
un
très bon.
Un peu de Nutella.
Alors, si, il faut que tu essayes ça, j'y sais.
Avec de la chantilly.
Crêpes de citron,
et test, vraiment.
Crêpes au citron. Alors, je suis un fan de citron, mais crêpes au citron, alors là, c'est la première fois.
Si, c'est sympa. C'est délicieux.
Alors, moi, je vous conseille autre chose, parce que c'est la Chandeleur. Donc, évidemment, on est là aussi pour faire vivre et pour donner envie aux auditeurs de s'en faire peut-être des crêpes aujourd'hui. Oui. Moi, je vous conseille, vous mettez la crêpe une fois qu'elle est cuite, voilà, tranquille. Vous la remettez un petit peu dans la poêle. Vous mettez du sucre. OK? Un petit peu chaud, fondu. Vous mettez du beurre, fondu, beurre, sucre, exceptionnel. Vraiment exceptionnel.
Avec un peu de caramel.
Et un zeste de citron. Et là, c'est...
Alors, je vais tester. Je vais tester tout à l'heure du citron.
Et tu n'oublies pas de faire tourner avec la pièce si tu veux gagner des sous cette année.
De quoi?
T'as jamais fait ça?
Ah, de faire tourner la crêpe.
Faire tourner la crêpe. Non, j'ai mes grands pièces dans la main.
Ah, pas du tout. Non,
jamais. Ah, une pièce d'or même.
Maintenant, tu devrais comprendre pourquoi ça ne marche pas pour toi.
En général, la crêpe était au plafond. J'arrivais jamais à les faire tourner, moi. Du coup, je n'étais jamais riche.
Ça compte. Bah oui, mais t'avais le lingot dans la main, toi. Donc, c'était difficile.
Je repartais avec le lingot de ma mère.
Quelle famille, c'est sûr, tout de même. 11h56. Passez une très belle journée sur RMC.